Réforme agraire. Vous attendez la constituante pour qu'elle la vote? Les paysans doivent prendre la terre tout de suite. Et les ouvriers, les usines. Tout le pouvoir aux soviets. La révolution que nous devons faire sera socialiste. Ébahissement. Ses plus proches lieutenants sortent de la gare de Finlande et ils disent il est devenu fou. Devenu coupé de tout, isolé, ne sachant pas ce qui se passe, il a un transport au cerveau. Et la presse unanime, pas le bolchevique, ils avaient la décence, c'était des gens bien élevés. Toute la presse reprend ses leitmotivs. Lénine, le chef bolchevique, revenu d'un long exil, ne sait plus ce qu'il dit. Il nous parle de la révolution socialiste. Quelle révolution? Quel socialisme? De la paix immédiate, de la terre? Mais c'est un anarchiste, disent les mincheviques. Mais c'est un blanquiste, disent les socialistes révolutionnaires. Mais c'est un énergumène, disent les bourgeois. Tel était l'accueil fraternel qu'a rencontré Lénine dans son propre parti. 4 avril 1917. Trois jours après, conférence d'avril, le grand tournant de l'histoire, Lénine présente des thèses qu'il a rédigées, concoctées quelque part en chemin dans ces fameux wagons non plombés. Et il dit, ce qu'il a déjà dit à la gare de Finlande, pas un homme, pas un sou pour la guerre. Traité immédiatement, quelle que soit les conditions. Renvoyez les gens chez eux avec les flingues. Ça facilite les choses. La constituante, peut-être. Mais tous les pouvoirs aux soviets, soviets des ouvriers, des paysans, des soldats, c'est ça le nouveau pouvoir, c'est ça la nouvelle démocratie. Et après, il faut jeter les vieux oripeaux compromis de social-démocratie. Il ne faut plus que le parti bolchevique s'appelle social-démocrate. Il faut qu'il s'appelle communiste. Et il ne faut pas négocier avec les mincheviques une problématique fusion, unité, dans la confusion et l'ambiguïté. La conférence, composée des délégués du rang nouveaux adhérents et bien entendu de tout l'état-major, se coupe en deux. Tout l'état-major bolchevique, tous les bolcheviques historiques sont contre. Et tous les néo-bolcheviques de la veille, qui ne comprennent pas très bien de quoi il s'agit, sont pour. Pour la dynamique révolutionnaire, pour la lutte pour le pouvoir, pour la paix, pour la terre, pour le contrôle ouvrier, pour la liberté. Ceux qui comprennent pourquoi il se bat, le suivent Et dès qu'il sort de cette thématique de lutte directe qui le concerne, ces hommes simples qui sont venus pour la première fois, le plus souvent, assister à un débat, eux, ils comprennent et ils soutiennent. Et dès qu'on sort de cet horizon, de ces cadres concrets, il n'est plus suivi. Changer les titres du parti, notre glorieux parti bolchevique, jamais. Refus. Écrasant la majorité de la conférence, de cette conférence qu'il a suivie pour l'essentiel, dit non. Bien mieux. La conférence décide de reprendre les négociations avec les mincheviks en vue de la refusion entre les bolcheviks et les mincheviks. Alors qu'un abîme les sépare, alors que d'un côté on parle du pouvoir des soviets et de l'autre du soutien d'un gouvernement provisoire bourgeois, il y a encore les gens dans l'état-major bolchevique qui disent oui, avec le plus grand sérieux, il faut reprendre la négociation en vue de la fusion entre les deux partis qui s'affrontent dans les usines, dans les unités militaires et dans la rue. Conférence d'avril. Et là aussi, une légende. Lénine est arrivé, il a dit, il a convaincu, il a vaincu. Il a écrasé ses adversaires, les adversaires qui, curieusement, étaient tous ultérieurement des adversaires de Staline. Eh bien, ce n'était pas aussi simple. Les gens hésitaient. Ils avaient des arguments contre. Je ne peux pas vous développer toute cette argumentation, mais par exemple, le co-rapporteur Kamenev a dit : je ne vois pas la possibilité de réaliser une révolution socialiste dans un pays qui sort de la barbarie et qui n'a pas encore réalisé ses tâches démocratique. Il est suivi par l'immense majorité de l'état-major bolchevique parce qu'en réalité, il reprend à son compte ce que, pendant des années et des années, disait et apprenait Lénine à son parti. Et Lénine de répondre: vous défendez les passés du bolchevisme, je défends son avenir. Les gens commencent à voter, malgré qu'il n'y a aucun vote. Le soldat vote en quittant les fonds. Il déserte. Les paysans votent en occupant les domaines des propriétaires fonciers. On est prudent. Quelquefois, sans leurs habitants, parfois même avec leurs habitants. Les ouvriers votent en occupant les usines. Les femmes votent en pillant les boutiques. Tout le monde vote, chacun à sa manière. Et peu à peu s'est créée cette atmosphère au fond, quand on regarde cette arène publique, seuls les bolcheviks leur disent, nous disent, faites. Faites tout de suite. N'attendez rien. La décision dépend. En juillet, le comité central convertit à la révolution. Décide la lutte pour le pouvoir. Et là, la situation se renverse. Subitement, Lénine dit non. Non. Il faut convaincre. Encore convaincre, toujours convaincre. Les bolcheviks ne font pas la révolution. Les bolcheviks préparent la révolution. La révolution sera faite par les masses. Par la masse des ouvriers et des paysans. C'est à eux de prendre la décision. Et les symptômes, les preuves de cette évolution nous viendront d'eux, de leur action, de leurs gestes, et non pas de nos décisions. Nos décisions n'auront qu'à expliciter, qu'à organiser, qu'à traduire en démarche stratégique et tactique la volonté souveraine du peuple. Juillet 1917, une manifestation armée, mal armée et dispersée par les troupes, les partis bolcheviques poursuivis pour action révolutionnaire, la plupart des dirigeants arrêtés ou cachés. Voilà un tournant. Et tout le monde dit, ça y est, la grande aventure bolchevique est terminée. Ils sont partis trop vite, trop tôt. Et en effet, ça a été, entre nous soit dit, à un demi-poil. Seulement voilà, malgré les arrestations, malgré la clandestinité, dans les soviets, à majorité bolchevique, se constitue le noyau de résistance armée. Le mouvement se précipite. Une nouvelle défaite sur le front de Galicie. Galicie, c'était une province autrichienne, où Kerensky, le chef du gouvernement, a voulu redorer les blasons militaires de la démocratie russe. Nouvelle défaite, des dizaines de milliers de morts, pas d'armes, pas de vivres, pas d'uniformes. Les soldats, peu à peu, bascule dans les camps de la révolution socialiste. Et le rapport de force change. À la veille de la prise du pouvoir, les bolcheviks sont majoritaires dans la plupart des grandes villes. Et dans un certain nombre de soviets des villages, les plus misérables, les plus pauvres, les plus dépourvus. Le problème de la prise du pouvoir se pose par qui, comment, quand, où. Débat au comité central, petit comité central. Zinoviev et Kamenev sont contre, Staline et quelques autres, intransigeants, refusent de se prononcer. Entre Lénine et Trotsky s'engage un dialogue sur comment faire. Trotsky dit, faut que le deuxième congrès des soviets se réunisse et ensuite nous, le comité révolutionnaire, nous prendrons le pouvoir et nous lui apporterons le pouvoir sur un plateau d'argent. Et Lénine dit non, non, c'est trop facile et c'est trop simple, c'est aussi trop risqué. Le 6 novembre, dit-il, 24 octobre, ancien style, seulement comme vous êtes nouveau style, alors je vous donne le nouveau style. Le 6 novembre, ce sera trop tôt. Le congrès doit se réunir le 7. Si nous prenons le pouvoir le 6, tout le monde le saura par la radio, une partie des délégués de province ne viendront pas à Petrograd. Le 8, ce sera trop tard. Le deuxième congrès sera constitué, il aura son comité exécutif, c'est lui qui prendra le pouvoir. Pour prendre le pouvoir le 7. Le 7 novembre. Voilà l'exemple unique dans l'histoire du monde d'un choix stratégique et tactique aussi exact, aussi raisonné, aussi infaillible. Et la meilleure preuve qu'il était infaillible, c'est qu'il a réussi. Nous prenons le pouvoir le 7. L'avant-veille, Zinoviev et Kamenev font publier dans l'organe de Gorki, qui était adversaire de Lénine, un texte dévoilant la décision du comité central. Dévoilant. Et aussitôt dans les camps des adversaires, la division. Les indices, c'est du bluff. Les bolcheviks nous bluffent. Ils veulent nous affoler. Ils ne prendront le pouvoir. Et les autres disent qu'ils prennent le pouvoir. Ils se casseront la gueule. Et ils prennent le pouvoir. On croit que comme le choix de la date, tout était aussi bien calculé, organisé, rationaliser, c'est de la blague. Vous avez vu peut-être les films d'Eisenstein qui s'appellent Octobre. Vous vous souvenez peut-être de la prise du palais d'hiver, de cette attaque frontale contre l'immense grille dorée qu'on repousse. Et des assauts se suivent, et les gens tombent, et après un petit détachement des marins, qui n'avaient pas du tout à être là, qui étaient ailleurs, se faufilent par des caves, dans les palais d'hiver, montent, entrent dans la salle de délibération du gouvernement provisoire, et ils disent, monsieur, vous êtes déposé. La révolution a triomphé. Il n'y a plus de combat. Et c'est dans un désordre qui ne recouvre qu'un ordre apparent, qu'une coïncidence unique apparaît entre un dessein stratégique longuement médité et préparé, avec des slogans qui secoue et mobilise les foules. Et les mouvements spontanés des gens qui, en partant de ce slogan, la paix, la terre, la liberté, brode improvise. S'empare des centres de décision. Imagine des formes inédites de lutte. Et c'est Lénine, rigide, tête dure, partisan d'une organisation semi-militaire qui dit « Mais c'est à eux de faire la révolution. C'est à eux de créer, de faire surgir les nouvelles formes de lutte. » Et cette garde rouge dont vous n'avez peut-être pas vu les photos des vieillards et des gamins, des déclassés et des reclassés, des femmes et des hommes, des soldats et des civils, la pègre, la racaille. Ce sont eux qui ont fait la révolution d'octobre.
Quel était le rapport de force en Russie au moment de la révolution, juste avant la révolution de février, qui a permis qui a permis le déroulement de la révolution de février, au niveau politique et au niveau militaire aussi?
Le rapport de force. C'est surtout le rapport de faiblesse, on pourrait dire. Parce qu'en réalité, tout s'écroule. Le front, le ravitaillement, les voies de communication, l'armement. Rien ne tient plus. C'est là, du côté du pouvoir. Au revoir. Et du côté des gens qui préparent le renversement. Là aussi, ce n'est pas très simple. Les ambassadeurs français et britanniques redoutent les aspirations de la cour à la paix séparée. L'impératrice est une Allemande. L'impérateur est un imbécile. Ça fait beaucoup. L'entourage craint l'effondrement. L'effondrement des sinécures, des situations. Peu de gens dans l'entourage de la cour veulent poursuivre les hostilités, alors que les représentants de la grande bourgeoisie, des banques liées au capital franco-britannique, eux, ils sont tenus à poursuivre les hostilités, ils le veulent, et c'est pourquoi la déposition de Nicolas II est fomentée par les représentants diplomatiques et militaires franco-britanniques auprès de l'état-major de l'armée et de la cour. Le renversement du tsarisme, l'abdication de Nicolas II a été préparé dans les coulisses du pouvoir. Seulement préparé, mais non accompli. Et le point de départ, ce sont les émeutes de la faim. Des femmes, n'ayant plus de quoi nourrir leurs enfants. Et la révolution de février, c'est la rencontre entre ce travail de sape au sommet du pouvoir et cette explosion de désespoir dans les masses. Mais tout cela, très peu organisé, très peu encadré, très peu dirigé. Et c'est pourquoi, devant ces vides politiques, où ceux qui sont au pouvoir ne peuvent plus gouverner, où les masses ne sont pas encore capables de s'emparer du pouvoir, c'est dans ces vides politiques que s'insèrent les comités exécutifs de la Douma d'Empire, cela veut dire du Parlement censitaire, élu par des propriétaires fonciers dans les grands bourgeois en grande majorité. Et c'est là où se constitue le gouvernement d'un grand propriétaire foncier, le prince Lvov, qui, bien entendu, tout en écartant la monarchie, veut continuer la guerre, veut instaurer une république conservatrice de type tiers. Cela veut dire continuer la domination des grands propriétaires fonciers en alliance avec la grande bourgeoisie urbaine. Seulement tout cela se greffe sur une situation militaire et économique absolument catastrophique, où le désespoir hante les paysans sous uniforme, les ouvriers affamés, des femmes. Les militants n'apparaissent plus tard. D'ailleurs, Rosa Luxembourg, qui a beaucoup prévu tout en étant en prison, écrit à propos de cette révolution, comme d'ailleurs à propos de la révolution de 1905, cette phrase prophétique: les sociaux-démocrates révolutionnaires ne sont pas là pour commencer la révolution. Ils sont là pour la diriger et pour l'achever. Je t'ai répondu?
Pas tout à fait. Enfin, je voulais dire, est-ce que la bourgeoisie... Bon, est-ce que la bourgeoisie russe, disons juste dans les années qui précédaient 1917, avait déjà l'intention de substituer à la monarchie disons une démocratie bourgeoise? Et est-ce que la monarchie, disons, russe, faisait un frein à l'accumulation économique, à l'accumulation du capital de la bourgeoisie russe? Est-ce que la bourgeoisie pensait déjà que la monarchie russe était son ennemi?
C'est plus compliqué que ça. La bourgeoisie russe tardive, faible, puisque la grande industrie était essentiellement l'industrie créée par des capitaux étrangers, par les investissements étrangers. La bourgeoisie russe était ballottée par les deux dangers et les deux aspirations. La première, c'est de se débarrasser du poids parasitaire de cet appareil semi-féodal, inefficace, absurde et coûteux. Mais elle avait derrière elle, qui l'a poussée à l'action, un prolétariat peut-être le plus aguerri de toute l'Europe, peu nombreux, peu cultivés, mais qui, depuis 1896, depuis la grande grève de cette époque, a vécu une série de luttes les plus diverses, partant de grèves, sans et avec occupation, affrontements, manifestations pacifiques, manifestations armées, formation des comités d'usine, formation des soviets, insurrection armée avec des barricades en décembre 1905 à Moscou, en juillet 1914 à Saint-Pétersbourg, la plus diversifiée dans ces luttes, la plus aguerrie dans ces affrontements, la plus soumise à une féroce répression, la plus capable de faire émerger les cadres révolutionnaires. Et la bourgeoisie est ballottée entre ces deux dangers. Elle redoute ce prolétariat qui monte derrière elle à l'assaut du régime. Et c'est pourquoi en 1905, elle conclut un compromis avec le tsarisme, parce qu'elle redoute la poussée prolétarienne. Mais ce qu'elle pouvait encore faire, parce qu'elle avait un champ de manœuvre suffisant en 1906, elle ne pouvait plus le faire en 1917. En 1917, il fallait bien qu'elle se débarrasse du tsarisme si elle voulait rester au pouvoir et trouver le soutien de la bourgeoisie anglo-américaine. Elle a pris ce risque. Elle a échoué.
Oui, je voudrais juste que tu précises un petit peu ce qui concerne un personnage qui est apparu très fugitivement dans ton historique, alors que tu as parlé un peu plus longuement de vieux bolcheviques, Zinoviev et de Kamenev, qui est Trotsky, non pas dans son rôle ultérieur, dans la guerre civile et dans la lutte pour le pouvoir au sein du parti communiste russe, mais essentiellement en rapport avec le rôle qu'il avait joué en 1905 et ses analyses postérieures.
Cela veut dire le rôle de Trotsky avant,
oui, avant
la révolution d'octobre. Tout petit problème. Bon, pourquoi? À peine. Qui est Trotsky? Le jeune révolutionnaire, marxiste, très proche de Lénine, qui au congrès de Londres de 1903, quand survient la scission entre les mincheviks et les bolcheviks, minchevik ça veut dire minoritaire, bolchevik ça veut dire majoritaire. C'est pas plus compliqué que ça. Croyez pas que derrière ces mots se trouve je ne sais pas quel secret idéologique. De surcroît, et c'est ça le côté amusant, les bolcheviks étaient en réalité en minorité et les mincheviks en majorité. Mais ça arrive très souvent. Vous le savez comme moi. C'est le coup classique. Sur quoi la bataille? Sur quoi la scission? Non pas sur le problème des perspectives révolutionnaires. Là, les différends surgiront plus tard. La bagarre se déclenche autour de la conception des partis, de l'instrument de lutte pour le pouvoir. Quel parti? Et là, deux définitions. Celle de Martov, est membre du parti, c'est lui qui collabore avec l'organisation du parti. Collabore. Et la définition de Lénine, c'est lui qui fait partie, qui appartient à une organisation. Deux conceptions, l'une large, ouverte, essentiellement orientée vers une large périphérie de sympathisants, l'autre conception semi-militaire de révolutionnaires professionnels encadrés, agissant sur décision, organisation centralisée, organisation se préparant à la lutte armée. Et Trotsky navigue entre les deux eaux. Non pas qu'il approuve la formule, la conception menshevique, mais il redoute la toute-puissance d'un comité central dans les conditions de clandestinité ou le vote démocratique ou une confrontation libre ou un débat ouvert est quasi impossible. Et il écrit. Et il se sépare des bolcheviques sur cette notion de l'hypercentralisme, d'une discipline qu'il juge excessive et redoutable pour l'avenir du parti. Et telle aussi l'attitude prise par Rosa Luxembourg qui examine et étudie un peu de l'extérieur cette bataille, cet affrontement de Londres. Elle aussi, elle dit que l'expérience de masse a une portée infiniment plus grande, malgré les erreurs et les risques qu'elle implique, que les décisions d'un comité central qui se croit infaillible. Il y a là, incontestablement, entre Lénine d'un côté, Trotsky, Rosa Luxembourg et d'autres révolutionnaires russes de l'autre, un désaccord très profond quant à la conception même des partis, de son rôle dans la révolution. C'est là où ils se séparent. Et après, mais seulement après, ces désaccords localisés concernant l'instrument de lutte pour le pouvoir s'élargit, s'approfondit et devient un désaccord fondamental sur la conception de la révolution. Quelle révolution? Révolution bourgeoise démocratique, disent les mincheviques, c'est aux bourgeois de la diriger. Nous ferons l'opposition à l'intérieur de cette révolution. Et Trotsky répond, non, en période de l'impérialisme, toute révolution inévitablement devient socialiste. Gouvernement ouvrier. Gouvernement ouvrier même pour faire une révolution bourgeoise démocratique. Et là intervient Lénine avec une sorte de découverte géniale. Il dit, nous allons faire une révolution bourgeoise démocratique sans la bourgeoisie qui hésite et au besoin contre la bourgeoisie. Mais il nous faut des alliés. Le prolétariat tout seul ne la fera pas. Ses alliés, ce sont les paysans. Gouvernement ouvrier et paysan. Dictature démocratique. Révolution bourgeoise démocratique faite par les ouvriers et les paysans sans et contre la bourgeoisie. Voilà une découverte géniale, unique dans son genre, et que personne ne comprend dans la deuxième internationale. Et c'est pourquoi Kautsky, le pape de l'orthodoxie marxiste, écrit dans la Neue Zeit, l'organe officiel, les querelles intérieures du parti social-démocrate ouvrier de Russie sont incompréhensibles pour les socialistes occidentaux. Trotsky joue un rôle important en 1905. C'est lui qui préside le Soviet de Saint-Pétersbourg. C'est lui qui est le premier, avant Lénine, emploie cette formule extraordinaire de profondeur et d'originalité. Il dit, quand on lui oppose les partis ouvriers aux soviets, quand on veut faire des soviets une sorte de rencontre des partis ouvriers, il dit non, le soviet c'est le parlement des travailleurs. Il représente globalement la classe ouvrière. Les partis représentent différentes tendances à l'intérieur de la classe ouvrière. Ils peuvent et doivent être représentés dans les soviets. Un texte de Lénine de 1906 qui insiste sur le rôle des soviets en tant que nouvelle forme de la démocratie a été envoyé à l'organe central du parti bolchevique et non publié. Il a été publié 50 ans après. Trotsky joue un rôle extrêmement important dans la Révolution. Il est arrêté en prison. Il écrit un livre remarquable, probablement son meilleur, qui s'appelle 1906.